Bonjour à tous, chers auditeurs. C'est l'heure de notre matinale Haute en couleur, laissant place à la parole aux personnes de la communauté LGBTQIA+ et ses alliés. Cette matinale se fait tous les derniers lundis de chaque mois et est présentée par moi-même, Léonie. Nous avons de merveilleux invités pour chaque rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être accompagnée de Yaël, chez Yaël, qui est aussi chez Aloïs, pour ceux qui nous ont écoutés le mois dernier. Bonjour, comment tu vas ?
Salut, ça va et toi ?
Ça va, depuis que je suis avec toi, ça va mieux. Merci d'être avec nous ce matin sur les ondes de Radio FM+. Yaël, je vais te laisser te présenter.
Ok, bah du coup moi c'est Yaël, j'ai actuellement 24 ans, je suis un mec trans, j'habite à Montpellier et je vis avec Aloïs qui est mon meilleur ami et mon coloc.
Et des chats qui se battent.
Oui, papa de deux chats malheureusement un peu féroces parfois, mais c'est de bonne guerre.
On va commencer en parlant de ton parcours professionnel et des difficultés que tu as peut-être pu rencontrer dans ton parcours professionnel, si tu le veux bien.
En tant que personne, du coup...
En tant que personne queer, ou même, t'es pas obligé de répondre que en mode « je suis une personne queer », juste aussi en tant qu'individu.
Ok. Mon parcours professionnel. Alors, moi je suis issu d'un bac littéraire. À l'origine, je voulais devenir juge pour enfants. Et j'ai complètement dévié, je me suis complètement découragé, on va dire. Et j'ai fini par, du coup, faire des études en littérature, en lettres modernes. J'ai fait une licence, puis un master en littérature d'enfance et de jeunesse. Et en parallèle, j'ai toujours fait de l'animation. Et c'est finalement, après avoir obtenu un master et que après avoir voulu m'orienter vers l'enseignement, que j'ai décidé de prendre un virage à 90 degrés et de faire de l'animation mon métier principal. Et au milieu de tout ça, j'ai aussi travaillé dans la prévention contre les inégalités de genre et les violences sexistes et sexuelles. C'est ce qui a notamment participé au fait qu'aujourd'hui, je reste dans l'animation.
Quand tu parles d'animation, tu parles d'animation sur les réseaux sociaux, en termes de projets, par exemple un podcast, ou animation, par exemple, les personnes qui ont le BAFA, qui font de l'animation pour les enfants.
Je parle d'animation avec les publics, les enfants, donc vraiment le social.
Le social, ok.
Le social.
C'est des enfants de quel âge à quel âge ?
Alors, moi j'ai travaillé avec tous les publics de 3 jusqu'à 17 ans. Et oui, ça s'est fait par période, donc de 3 à 17 ans.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué avec ces enfants et ces adolescents, presque adultes ?
C'est à quel point, parfois, très jeunes, ils peuvent être marqués par des idées reçues, des stéréotypes de la société, certaines injonctions parfois, qui fait que à la fois c'est un peu désolant et à la fois ça motive encore plus à déconstruire, travailler avec eux, les accompagner dans le fait de devenir des humains, de bons humains, on va dire.
Est-ce que tu as eu une expérience très positive dans le sens où tu as éduqué ? Je sais pas si on peut dire ça comme ça avec un enfant que tu viens de rencontrer, mais montrer un message à un enfant sur la queerness, sur l'acceptation de soi, etc., et qui te l'a rendu après.
Alors, je sais pas si j'ai travaillé assez longtemps au même endroit pour voir l'évolution d'un enfant à qui j'aurais pu apporter des choses sur ces notions, mais je sais que ça a pu arriver, et à l'inverse, je sais que les enfants ont aussi pu m'apporter des choses par rapport à la queerness ou au fait d'être une personne LGBT au quotidien. Je me souviens mes premières expériences en séjour de vacances en tant qu'animateur, où j'étais reconnu du coup comme une animatrice à ce moment-là, et où j'étais bien plus validé par les enfants qui étaient avec un regard beaucoup plus innocent, même des ados, hein, qui parfois me suivaient beaucoup plus dans ce que je proposais, parce que ce que je représentais à leurs yeux, ça leur parlait plus, ça les rassurait. Et j'ai appris plus tard que certains et certaines d'entre eux faisaient partie eux aussi de la communauté LGBT. Mais c'est vrai que encore récemment, là cet été en séjour, des ados qui se sont sentis proches de moi parce que je dégage quelque chose de queer en fait.
Il y a ça, je pense, et aussi en termes de personnalité, t'es une personne très bienveillante et tu aimes communiquer, etc. Après, je suis pas là pour faire ton éloge, mais c'est ce que je pense et je vois que tu es en dehors de ce côté queer. Ce côté queer.
petit côté queer. Petit côté TD, quoi.
Dans le sens, t'es une personne joviale, assez solaire. J'espère que c'est pas pour cacher une tristesse interne, mais. Mais c'est vrai que je pense que si j'avais été une gosse et que tu avais été mon animateur, j'aurais été trop contente, quoi.
Merci, ça me fait plaisir.
Tu as fait un petit tour dans le côté santé, du coup.
Oui.
Et je voudrais savoir si pour toi, tu trouves que la prévention sur la santé mentale est assez faite aujourd'hui, ou est-ce que tu penses que les personnes de la communauté ont besoin d'un soutien en plus ?
Je pense que les personnes de la communauté ont besoin de plus de soutien. Ça me semble être une évidence. Aujourd'hui, on a des associations, on a des organismes de prévention, de sensibilisation à la santé mentale dans les milieux LGBT qu'il y a plus. Je pense notamment au Sésame du côté de Toulouse, qui fait aussi des permanences sur Montpellier, qui sont spécialisés dans la santé mentale chez les personnes LGBT. Maintenant, les moyens sont insuffisants, mais quand je parle de moyens, je parle aussi de moyens financiers. Je sais que c'est pas du tout la faute de ces associations qui se multiplient, mine de rien, dans ces dispositifs. Mais c'est toujours pas suffisant. On est bien trop nombreuses à avoir besoin d'un suivi en termes de santé mentale. Et malheureusement d'être précaire, puisque ça fait aussi partie des problématiques en tant que personne queer LGBTQIA+. Et je pense que tant qu'on n'aura pas plus de moyens financiers sociaux, ben ça marchera pas, dans le sens où on sera pas assez accompagné.
C'est pour ça qu'il faut militer.
Tout à fait.
On parlera de ça après, mais avant je vais un peu faire un virage à 90 et je vais te demander de me définir la transidentité pour nos auditorices.
La transidentité, c'est le fait de ne pas se reconnaître dans le genre qui nous a été attribué à la naissance. Ça peut être très varié, très divers. La transidentité, c'est un espèce d'immense parapluie qui regroupe plein d'autres termes à l'intérieur de ce parapluie. Mais en tout cas, c'est le fait de ne pas se sentir en cohérence avec le genre qui nous a été assigné.
En tant que, du coup, homme trans, ça t'a fait quoi de te rendre compte qu'on t'avait assigné à un genre et qu'en fait c'était pas du tout dans quoi tu te sentais bien, quoi. Cette révélation, qu'est-ce que t'as ressenti quand tu... Je sais pas si c'était une révélation, hein, ou si c'était petit à petit, mais...
Ouais, c'était progressif, mais je pense qu'un des premiers sentiments que j'ai ressenti, c'était de la colère. D'ailleurs, j'ai d'abord été en colère contre mes parents. Je leur en ai voulu de pas m'avoir fait comme j'aurais dû être. Ça n'a pas aidé dans le cheminement vers ma transidentité quand il a fallu faire des coming out et que ça n'a pas toujours été très bien pris. Mais c'était, ouais, le premier sentiment, c'était vraiment de la colère. Et en discutant avec des amis, en écoutant des témoignages qui, eux, ont pu sentir du soulagement, de la joie, beaucoup d'euphorie, là où moi je m'y retrouvais pas du tout, j'ai mis du temps à comprendre que la colère, c'était aussi une émotion légitime quand on découvre que on va devoir entamer peut-être un parcours, que ça va être périlleux, que c'est pour être en cohérence avec soi-même, que c'est pas en adéquation avec ce qu'on a annoncé à la naissance. Et c'est en me renseignant sur des influenceurs et en tombant sur des influenceurs sur Instagram que me suis retrouvé dans un témoignage d'un homme trans qui disait que lui, aussi, la première émotion qu'il a ressentie quand il a eu la révélation, comme tu dis, c'était de la colère.
Mais enfin, je suis pas une personne trans, donc je pourrais jamais relate à 100%. Mais je trouve que c'est une émotion totalement légitime. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui entament ce parcours ou qui se posent des questions sur leur identité de genre, la colère était tellement légitime parce qu'il y a des personnes qui naissent et c'est bon direct. Et toi, tu vas devoir te battre pour être reconnu en tant que tel.
Exactement.
Bon, voilà.
Et c'est quelque chose qu'on peut complètement transposer à tout combat dans la communauté LGBT d'ailleurs, puisque il y a cette espèce d'injonction de normalité dans la société qui est l'hétéronormativité, hein, qui nous cantonne à des schémas qui manquent de qui sont surreprésentés et qui du coup font que dans la communauté on manque de représentation. Donc tout de suite, quand on n'est pas en cohérence avec ce qu'on a toujours vu, c'est compliqué de se reconnaître et donc on se sent en marge et donc on est en colère contre soi, contre la société, contre les gens qui nous voient différents, contre tout ça en fait.
Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as vu une représentation queer, peu importe la lettre on va dire, à la télé, en chanson ou dans un film, je sais pas.
Je sais pas si c'était la première fois, mais il y a une fois qui m'a marqué et qui a résonné fort à ce moment-là, sans que je comprenne tout à fait. Et en même temps, j'ai très bien compris ce qui se passait et j'avais presque honte sur le moment, parce que je me suis dit « Waouh, le jour où mes parents le savent, ça va être quelque chose. C'était une représentation d'une meuf lesbienne, du coup, puisque à ce moment-là, j'étais plus proche de cette revendication. C'était dans une série qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça, une série française.
Oui.
Et dans les dernières saisons, bah, y a une des filles d'une des familles qui se révèle être lesbienne. Et je me souviens du moment où on commence à voir des plans où bah, elle cache à sa famille qu'elle va voir non pas son petit copain, mais sa petite copine, qu'elle finit par l'annoncer. Et je me souviens me faxer dans le canapé à côté de ma mère qui regardait, qui avait très bien compris ce qui se passait, et moi qui me dis « Bon, il y a bien un monde où il faudra que je leur dise, moi aussi. » Et je me souviens ouais, de cet extrait-là particulièrement.
Ok, ça t'a fait quoi comme sentiment ? De la peur, de l'appréhension ?
Alors, il y avait de la peur, mais il y avait aussi un peu de soulagement de savoir que ça existe et que c'était représenté un petit peu quand même à la télé. Je pense que c'est une série qui date des années 2010, un truc comme ça.
Ouais.
Moi, je devais avoir 14-15 ans à ce moment-là. Et parce que c'est sorti, je pense que c'était en 2014 que j'ai découvert tout ça. Et ouais, ça m'a soulagé de voir que ça existait un peu, parce que j'avais peu de représentations autour de moi. J'étais pas encore à fond sur les réseaux sociaux, mais je commençais petit à petit à aller vers les réseaux, à suivre des pages LGBT friendly qui exposent des influenceurs, des influenceuses, ou en tout cas ce qui lancera par la suite, et qui donne un peu de visibilité.
Qu'est-ce qui t'a aidé, du coup, en dehors des réseaux sociaux, à t'affirmer en tant que toi ?
Très bonne question. Je pense que c'est l'entourage aussi qui joue beaucoup. La famille choisie, les amis. Les amis, ça a été une part importante dans mon affirmation personnelle. Je parle surtout autour de ma transidentité. Parce que quand on est persuadé que la famille de sang ne nous suivra pas et qu'on appréhende, et ben parfois on met de la distance et on se rapproche d'une autre famille choisie qui nous sécurise. Moi, ça a été mes amis.
C'est très beau, je suis émue un peu. Bah du coup, j'ai envie de parler de communauté. J'avais déjà posé cette question à mes autres invités. Est-ce que tu te sens appartenir du coup à la communauté LGBTQIA+ ?
Je dirais que je me sens plus proche d'une sous-communauté, la communauté queer, que la communauté LGBTQIA+, dans la mesure où je distingue vraiment beaucoup les deux. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. J'ai beau représenter le T, pour moi, je suis avant tout une personne queer, dans tout ce que ça comprend, c'est-à-dire le militantisme, l'engagement, ce qu'on représente en tant que personne militante.
Comment tu milites tes micro-actions qui font que tu milites tous les jours, c'est quoi ?
Alors, c'est bateau, hein, mais les reposts sur Instagram.
Oui.
Voilà, quand on n'a pas la force d'aller dans la rue et de crier, bah, il y a au moins ça, donner de la visibilité. Autrement, c'est dans mon métier. En fait, quand j'ai commencé à faire de la prévention contre les inégalités de genre, ça m'a permis de commencer à militer concrètement sur le terrain avec des vraies actions auprès de vrais publics, auprès de vraies personnes. C'est du militantisme, même si c'était des sensibilisations. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup forgé, beaucoup amené, et dont je me sers au quotidien dans mon travail en tant que formateur BAFA aujourd'hui et coordinateur, parce que c'est quelque chose que je suis amené à faire régulièrement. Sensibiliser des collègues, sensibiliser des stagiaires, sensibiliser des groupes autour de ces sujets-là. Et on en revient systématiquement à la question LGBT, parce que ça fait partie intégrante bah, du combat contre les inégalités de genre. Et donc, c'est... Ouais, je dirais que c'est ça.
Il y a un sujet qui me rend un peu dingo-dingues. J'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y avait une communauté qui se dégageait. C'était les LGB, je crois, qui n'aimaient plus... Non, c'était les... Je sais plus.
Qui excluent les
personnes trans. Qui excluent tout, mais plus que ça, toutes les autres formes. Tu n'avais pas le droit d'être pan, tu n'avais pas le droit d'être bi, quoi que ce soit. C'était juste LGB. Mais non, c'était LGB, je crois.
C'est possible.
Mais ça m'a rendu folle. En fait, vous êtes déjà, en soi, dans une société où vous êtes persécuté. Pourquoi vous voulez persécuter des gens qui peuvent juste vous aider ? Enfin bref, ça m'a rendu folle. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que ça te rend fou ?
Ah oui, ça me rend fou parce que c'est déjà une forme de comment on dit, de c'est des personnes conservatrices, en tout cas. C'est vraiment revenir... C'est une tentative de revenir à des bases LGBT. LGBT, quoi qu'on en pense, mais c'est pas cohérent, parce que à partir du moment où on les a acceptés eux, où ils ont fini par se faire une place dans la société, et on les remercie, parce que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, et elles, bah pourquoi on exclut aujourd'hui toutes les possibilités qui naissent de ces revendications ? Parce que c'est ridicule.
Un peu plus du micro. Pardon. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est ridicule. Justement, est-ce que ça te met en colère ?
Oui, je pense que ça fait partie des choses qui me mettent en colère dans le militantisme et dans ce qu'on cherche à revendiquer aujourd'hui.
Est-ce que tu trouves qu'il y a du coup également une part de toxicité dans la communauté LGBTQIA+, ou dans la communauté queer ?
Oui, complètement. Oui, bah tout milieu militant a sa part de toxicité, et on peut pas être tout blanc, on peut pas être tout noir non plus, enfin c'est à un moment donné, c'est des nuances constantes. Bah, il s'avère que oui, la communauté LGBT, la communauté queer sont aussi parfois des sphères toxiques. Je pense notamment à tout ce qui va être pureté militante.
Je connais pas ce terme.
En gros, ça comprend un petit peu l'idée que, alors peut-être que je vais être très maladroit, mais ce que j'en ai de mon expérience et de ce que j'en sais, c'est que la pureté militante, c'est le fait de devoir être irréprochable dans notre militantisme, et du coup que les gens autour de nous le soient aussi. Sauf que on est construit d'une certaine manière, on n'est pas tous issus des mêmes milieux, on n'a pas tous la même culture et le même vécu, qui font qu'on ne peut pas être égaux sur le militantisme, sur notre investissement dans ce militantisme, et dans nos connaissances, etc. Donc, parfois, la pureté militante, c'est quelque chose qui entache énormément nos combats, parce qu'on peut se retrouver rapidement exclu de communautés ou de sphères à cause de cette pureté militante, ou en tout cas des exigences que ça pose. Et c'est d'ailleurs une des autres formes de toxicité que je trouve qui existe dans cette communauté, c'est le call-out en fait, le fait de claquer la porte à quelqu'un de manière très brutale, de l'exclure de certains milieux spatiaux, je pense notamment à des bars, des événements communautaires, sous prétexte que cette personne aurait fait quelque chose qui n'aille pas dans le sens du militantisme. Alors attention, hein, à prendre avec des pincettes, bien sûr qu'on exclut les personnes qui sont violentes physiquement, violentes sexuellement, toutes ces personnes qui n'y arrivent pas dans le sens du consentement.
Oui, non, mais c'est deux sujets différents quand même.
Parfois, la pureté militante et le call-out vont un peu loin et on se retrouve à prendre parti sur des choses en tant que personne pas concernée par certaines situations et sous couvert de militantisme en fait. Et ça m'énerve.
Et je ne peux être que d'accord avec toi. Et sur ces jolis mots, on va faire une petite pause musicale pour laisser nos auditoristes méditer sur ce qu'on vient de dire. Et on se retrouve juste après.
Butch, c'est toi qui fais l'homme, Butch.
Donc c'est toi qui dom.
Contouring, gros biceps, je connais plus mes pronoms. Genderfuck, j'suis à l'ouest, je connais plus ma maison. Clé de 12 à la ceinture, mon string s'accroche à mon armure. Je répare les bails et je règle les problèmes de retour à la maison. C'est toi qui me ken.
Daddy ou Britney, je sais plus qui je suis. L'impression de performer, de jouer le rôle qu'on me dicte. Poupée de cire, poupée de son, on m'a modelé pour les garçons. Dans la commu, je me sens con. On me dit qui je suis sans même connaître mon nom.
Bad bitch, bad bitch, jamais à ma place. Trop belle, trop masque. Mauvaise, lesbienne, j'crois que ça te dépasse. Si tu m'aimes pour le vrai, me fous pas dans une case.
Transmasque un peu femme, ça leur fout la haine. Trop qu'un tu se plaignes, c'est pas mon problème. Ici les seins sont de sortie, j'ai hâte de la goodbye party. T'es là, tu critiques, donne-moi la monnaie que je les quick.
Mais pas Domina dans la sidecar. Moi je suis Thelma, j'ai mon costard et ma Domina. Toutes mes go m'ont toujours dominé. Oli bébé, c'est toi qui as la clé.
Ça pique comme une princesse, mais je suis le monstre sous ton lit. Ne juge pas aux faciès, je te bouffe au petit déj baby. La vie est courte, ma robe aussi. Manucure clean, esprit sassy. Je fends la foule dans la street. Tu rages, mais tu fais tous mes streams.
Babouche. Jamais à ma place. Trop belle, trop masse. Mauvaise, lesbienne, j'crois que ça te dépasse. Si tu m'aimes pour de vrai, me fous pas dans une case.
voilà, toujours chez Yaël et Aloïs, mais là nous parlons avec Yaël.
Et oui, ne pas faire l'amalgame quand même.
Est-ce que tu pourrais dire le titre de la chanson que tu as choisie?
Oui, bien sûr, c'est Bad Butch de Camion Bip Bip.
Tu les as connus comment?
Eh ben, tout à fait par hasard. Ils ont performé au Madre Diosa Bar à Montpellier il y a quelques années. Je les avais ratés à ce moment-là et je les ai vus à une autre occasion parce que je me suis renseigné sur leur musique entre-temps en me disant c'est un groupe qui est militant, ils ont l'air trop bien. Et j'ai adoré leur musique, vraiment. Ils ont notamment un titre qui s'appelle Club Ouin Ouin.
C'est ce que j'allais dire, c'est pas eux qui ont fait Ouin Ouin.
Tout à fait, c'est eux et c'est juste grandiose quand on est militant et un petit peu radical sur les bords. et qu'on aime pas trop les M6, lol. Et ensuite, bah, j'ai eu l'occasion, que dis-je, l'honneur de les voir en performance pour un des anniversaires du Madre Diosa, justement, au Waltropisme.
Ok, bah, c'est très très cool. Merci de faire partager ça à Radio FM+.
Avec plaisir.
Et là, je vais encore switcher de sujet.
Bien sûr.
Et je vais parler encore de ta vie professionnelle. Je sais que tu as fait un petit service civique. Et je vais m'arrêter là et c'est toi qui vas en parler.
Tout à fait, j'ai fait un service civique, donc comme je le disais tout à l'heure, sur la prévention dans le milieu scolaire contre les inégalités de genre et les violences sexistes et sexuelles. C'est un service civique qui m'a amené ensuite à devenir coordinateur pour une équipe de service civique toujours dans le même domaine. Donc je coordonnais l'équipe en prévention et j'ai fait ça pendant 3 ans en tout. Donc c'est un service civique durant lequel on répondait dans le cadre d'un dispositif régional qui s'appelle Génération Égalité, qui malheureusement est voué à disparaître avec les financements qui étaient dédiés. Hein. Le budget 2026, on le voit arriver gros comme une maison. Donc c'était un dispositif qui était voué à faire de la sensibilisation dans les classes de seconde, dans un premier temps contre les inégalités de genre, mais aussi en santé sexuelle, tout ce qui concerne les
IST.
Oui, les IST, la santé sexuelle à grande échelle. Et donc suite à ça, j'ai voulu poursuivre dans la coordination. Et comme je le disais, en fait, dans l'animation, j'ai pas seulement fait de l'animation en tant qu'animateur, j'ai aussi fait de l'animation en tant que formateur BAFA. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est que j'ai continué à former et à évoluer dans cette discipline. Et aujourd'hui, je suis coordinateur dans la formation BAFA, pardon. Et c'est comme ça que je lis du coup le service civique et que ça m'a fait arriver là.
Mais les super tes études pardon, je voulais faire une blague, j'ai pas réussi. Très bien, Yaël. Aujourd'hui, tu as 24 ans.
Tout à fait.
Je pense que tu as eu des expériences amoureuses.
Oui.
Ben c'est le prochain sujet. Il me semble, j'espère que c'est toujours le cas parce que sinon c'est la honte, que ton cœur est pris en ce moment.
Tout à fait, mon cœur est pris.
Est-ce que c'est compliqué d'assembler relations amoureuses, parcours de transition, découverte de soi et vie professionnelle? Et avant ça, c'est quoi ton avis sur les applications de rencontre?
Alors, du coup, pour répondre à ta dernière question,
okay.
Mon avis sur les applications de rencontre, j'allais cracher dessus comme un gros con alors que c'est là-dessus que j'ai rencontré la personne avec qui je suis très heureux aujourd'hui, donc je vais me résigner. Non, alors les applications de rencontre, je ne connaissais pas du tout jusqu'à celle que j'ai utilisée jusqu'à rencontrer ma partenaire actuelle qui est Inge. J'étais très frileux à l'idée de me mettre sur les applications de rencontre parce que comme beaucoup de mes semblables, comme je dis, ça fait peur quand on est un mec trans, qu'on s'expose sur une application de rencontre, qu'on sait pas si on doit s'outer, se lancer comme ça dans le vide sans savoir qui on va avoir en face de nous, ça fait peur et ça peut être dangereux. Donc j'étais très frileux. Au final, j'ai tenté le coup une fois dans ma vie. Ça a marché, voilà. J'ai pas eu besoin de l'installer très longtemps. J'étais ravi, et je le suis toujours d'ailleurs. Donc voilà, mon avis sur les applications de rencontre, c'est que je suis mitigé, mais qu'apparemment ça fonctionne pour certaines personnes, donc c'est tant mieux.
Du coup, je te demande de répondre à la question d'avant, mais je vais peut-être la reformuler pour que ce soit plus simple. Est-ce que c'est compliqué d'assembler relations amoureuses, parcours de transition, découverte de soi et vie professionnelle? Je parle pas spécialement de maintenant, vu que du coup t'es quand même un parcours qui est, on va pas dire achevé parce que c'est jamais vraiment achevé, mais t'es quand même bien installé aussi dans la vie professionnelle, mais quand tu as commencé à transitionner et à te poser des questions sur toi et tout.
Ben, pour te répondre, oui, c'est compliqué. J'ai commencé mon parcours de transition en couple.
Je
l'ai poursuivi célibataire, qu'on soit clair. Ça n'a pas duré. Bon, pour plein d'autres raisons. Mais d'ailleurs, je remercie la personne avec qui j'étais en relation à ce moment-là, qui m'a apporté un soutien immense dans le début de ce parcours, dans mes coming out, mes premiers coming out, mes premières réflexions, mes premiers questionnements de genre concret. Donc, ça demande une place énorme dans sa propre vie d'entamer un tel parcours, et très vite j'ai eu besoin de respirer, si bien que j'ai tenté de me relancer dans une relation sentimentale peu de temps après cette relation qui a duré quand même 3 ans de ma vie. Ça n'a pas fonctionné, ça a donné lieu à des comportements de moi-même que je ne connaissais pas, des réactions où je ne savais pas me positionner parce que j'étais trop pris en fait par ce que j'étais en train de vivre. Les changements, la transition, c'est pas anodin. Et clairement, j'ai pas pu poursuivre la relation. J'ai dû y mettre un terme, mais pas de la bonne manière en plus, donc c'est trop débile. Donc non, c'est pas facile de relationner quand on est dans un tel parcours, quand on est pris comme ça par des changements aussi forts. Maintenant, c'est pas une fin en soi. On n'est pas voué à être célibataire toute notre vie et malheureux comme des pierres parce que on ne trouve pas l'amour. Si, on trouve l'amour, et heureusement. C'est d'ailleurs un des premiers questionnements que les gens se posent, hein. Après, qu'est-ce que t'as dans le pantalon? Qui va t'aimer? C'est réel. C'est très réel. Ça a été une des premières peurs de mes parents, de se demander si j'allais trouver l'amour en tant que personne trans. Bon, ben, papa, maman, vous le savez, hein. Oui, j'ai trouvé l'amour et ça se passe très très bien. Et donc, je pense que c'est pas une fin en soi.
C'est assez marrant parce que cette question, elle relève aussi d'une autre question. C'est que tout le monde, en grande majorité dans la société, on est amené à se dire que être en couple égale être heureux, être en couple égale fille, la vie est finie, c'est bon, t'as coché la petite case. Et c'est un avis que je ne partage absolument pas, parce que personnellement, ça fait plus de 2 ans que je suis célibataire, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie et j'ai trop peur. Mais c'est hyper important que tu le dises, parce que déjà, à quel moment tu dis à quelqu'un « mais qui va t'aimer ?»
Oui.
Bah, il y a aussi l'amour amical, il y a aussi l'amour famille, mais apparemment, dans certaines familles, ça se passe pas très bien. Est-ce que t'as un avis arrêté sur ça? Est-ce que tu avais vraiment peur de pas être aimé amoureusement, ou t'avais peur de pas être aimé tout court?
Alors, je pense que j'ai plus peur de pas être aimé amoureusement que de pas être aimé tout court, parce que on trouve toujours des personnes assez bienveillantes et assez finalement saine d'esprit pour nous donner la valeur parfois en laquelle on croit pas forcément. Mais en fait, la relation amoureuse, comme on a grandi dans l'idée que c'était l'ultime goal d'une vie de finir avec quelqu'un et de faire en sorte que cette personne nous aime toute la vie et peu importe qui on est, bah forcément le peu importe qui on est, il peut basculer du tout au tout en fonction de qui on est. C'est-à-dire que je rentre pas dans les cases de la société aujourd'hui qui est fondée sur des injonctions de normalité, d'hétéro-normativité encore une fois. Donc, d'hétéro-cis-normativité même, je dirais. Donc, ça fait peur. Ça fait peur, je pense que c'est aussi ce qui participe dans la communauté, notamment LGBT, QIA+, et dans la communauté queer, a beaucoup de dépendance affective parfois, d'avoir peur d'être quitté, de quitter parce que on a peur de ne plus jamais retrouver une chouette histoire parce qu'on est une personne marginale entre guillemets. Donc je pense que je suis d'accord avec toi pour dire que les relations amicales c'est une forme d'amour qui peut apporter autant que des relations amoureuses. Et quand j'étais célibataire, j'ai été très heureux aussi parce que j'ai consolidé des amitiés d'une force aujourd'hui que je mets au même niveau que mes relations amoureuses, que ma relation amoureuse en l'occurrence. Mais c'est vrai que parfois on a cette petite voix parasite dans la tête qui nous rappelle que la société n'attend pas ça de toi. Elle attend que tu hiérarchises et que la relation amoureuse prime sur le reste. Surprise, dans la communauté queer, on a plutôt tendance à rabattre les cartes et en faire un peu ce qu'on veut.
Est-ce que t'as peur aujourd'hui en France d'être toi?
Bien sûr. Ce serait mentir que de dire qu'en tant que personne queer, on n'a pas peur dans le monde dans lequel on grandit, dans la société française ou pas, mais là, française en l'occurrence, bien sûr, je suis terrorisé de me dire que peut-être que là, en 2026, en 2027, il va y avoir des choses de voter, des personnes qui vont passer au pouvoir qui est ces personnes qui ne veulent pas nous voir exister. Donc non, c'est terrorisant.
Je suis terrorisée également. Je ne comprendrai jamais cette haine qu'on voue à des personnes qui sont juste différentes de toi, alors que tout le monde est différent des uns des autres. Enfin, c'est un débat que certaines personnes ne sont pas prêtes à avoir, et je ne comprends pas pourquoi, parce que ça devrait pas être un débat.
Moi, je pense que ces personnes sont malheureuses et refusent que les gens autour d'elles et eux soient heureux et heureuses.
Dis bien, dis bien. Est-ce que tu as des associations à recommander sur Montpellier ?
Alors, sur Montpellier, il y a une association qui me vient en tête, c'est le SPOT, qui est un centre communautaire plus qu'une association, qui est en fait une branche de l'association AIDE, et qui centralise beaucoup de choses, dont la prévention des risques sexuels, mais aussi la santé mentale et la sensibilisation et la prévention autour de la santé mentale, des addictologies, de l'addictologie en règle générale aussi. Et qu'est-ce que je peux dire de plus à propos du SPOT ? Voilà, allez voir, c'est juste trop bien comme lieu, ils sont hyper chaleureux, accueillants, ils font des dépistages, s'il y a des dépistages à faire, c'est chez eux qu'il faut aller pour faire fonctionner le système associatif.
C'est hyper important.
Faites-vous dépister.
Faites-vous dépister, s'il vous plaît.
Mais voilà, le SPOT sur Montpellier, c'est ma référence principale.
Bon, je change encore une fois de tout au tout, mais quelle chanson, livre ou film ou série ou ce que tu veux t'as le plus marqué en tant que personne queer ? Et du coup, une petite reco comme ça.
Alors, en tant que personne queer et en tant que personne trans, en l'occurrence, le livre qui m'a le plus marqué, c'est un roman graphique qui s'appelle Transcripteur. Il s'appelle Transcripteur, en tout cas, il est écrit par Transcripteur. Et je crois que le titre, c'est Un an sous testostérone, puisqu'il en a écrit deux, ça c'est son premier. Et en fait, c'est un livre que j'ai commencé à lire avant mon parcours de transition, en tout cas avant mon parcours hormonal, puisque j'ai commencé quand même mon parcours en 2021, et que je peux que recommander parce qu'il est très accessible, il vulgarise la première année d'un parcours de transition hormoné, donc du coup pour une personne trans masculine, et c'est très bien écrit, c'est facile même pour des proches qui pourraient avoir quelqu'un qui transitionne dans leur famille ou dans les amis. Je l'ai fait lire à tous mes potes, à mes parents, et franchement, il est trop bien.
Merci, je le lirai aussi.
Avec plaisir.
Si tu pouvais donner à une personne... j'ai oublié un mot. Si tu pouvais donner un conseil à une personne qui se découvre LGBTQIA+, et qui n'ose pas encore en parler, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je lui conseillerais de se rapprocher des personnes en qui elle a le plus confiance, et des milieux aussi associatifs, des milieux queer, des milieux LGBT, QIA+, aussi, mais de se renseigner sur les lieux ressources tels que ça peut exister dans toutes les villes, et de s'en rapprocher, de pas hésiter à solliciter en cas de besoin, et même juste pour le care, en fait, le soin, c'est hyper important.
Je suis très triste que cette interview se termine, mais je vais quand même poser une dernière question. Quelle est la chose la plus importante que tu aimerais que les auditeuristes retiennent de ton témoignage aujourd'hui ?
Qu'on nous pousse souvent à être soi-même, que sur le papier ça a l'air bien facile et que dans la réalité ça ne l'est pas forcément, mais que c'est pas une raison pour baisser les bras et qu'il faut qu'on continue d'avancer.
Merci beaucoup Yaël pour ce moment partagé.
Avec plaisir, merci à toi.
Nous on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Et je vous dis à bientôt sur les ondes de Radio FM+. Au revoir.
Salut.